Frères et sœurs, voici d'abord la bonne nouvelle de l'Évangile pour vous. C'est que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données, et cela sans condition, quelle que soit votre foi, votre absence de foi, vos convictions, vos doutes, Dieu vous bénit et vous accompagne avec tendresse. Alors merci d'être venus en ce dimanche matin pour que nous fassions corps, pour célébrer notre Dieu à tous, le Dieu de l'univers, pour nous ouvrir ensemble à ses bons soins pour nous et pour le monde. C'est en confiance donc que nous nous tournons vers Dieu avec notre soif de lui, avec le chant du psaume 42. C'est page 62 de notre psautier et je vous propose de chanter les strophes 1 et puis 3 et 4. Comme un cerf altéré brame, pourchassant le frais des eaux. Et pour poursuivre dans la louange, je vous propose de suivre du cœur cet hymne d'Ambroise de Milan au IVe siècle. C'est donc le prêtre qui a, si je puis dire, évangélisé saint Augustin. C'est quand même une belle opération. Éternel Créateur du monde, toi qui gouvernes nuit et jour, qui fait succéder les temps au temps pour alléger la lassitude. Le veilleur du jour déjà sonne, chassant la nuit profonde, clarté nocturne pour les voyageurs, séparant la nuit de la nuit. Par lui éveillé, le porteur de lumière délivre le ciel des ténèbres. Par lui tout le cœur des errants abandonne les voies du mal. Par lui, le marin reprend force et la houle des flots s'apaise. L'apôtre Pierre lui-même a saisi sa faute à son chant. Levons-nous donc avec courage, le coq éveille ceux qui gisent. Il invective les somnolents, le coq confond les infidèles. Au chant du coq, l'espoir renaît. La santé revient aux malades, l'arme du bandit se rengaine, la foi s'en retourne au pécheur. Ô Jésus, regarde à moi qui chancelle, et par ta vue soigne-nous. Sous ton regard, nos faux pas cessent, nos pleurs nous éloignent de notre faute. Reprends ton éclat dans nos âmes, dissipe le sommeil du cœur, par toi d'abord que nos voix sonnent, vivons nos prières envers toi. Alors je vous propose de prendre le cantique 31-17, c'est page 326. Ô mon cœur, prends courage. Dans les premiers siècles du christianisme, la semaine qui suit le dimanche de Pâques était tout entier comme un grand dimanche de 8 jours. C'était l'octave de Pâques. Et cette octave de Pâques se concluait par le dimanche, donc après le dimanche de Pâques, que l'on appelait le dimanche de Quasimodo. Pas à cause du roman de Victor Hugo, c'est plutôt l'inverse. Mais ce nom de Quasimodo, ça vient du passage de la première lettre de Pierre qui a été choisi pour ce jour-là. Quasimodo geniti, comme des enfants nouveau-nés, nés à Pâques et appelés à grandir. Alors regardons ce que nous propose Pierre pour naître et grandir dans cette semaine de Pâques. Ayant été engendrés à nouveau, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour l'éternité. Cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Rejetez donc toute méchanceté et toute ruse, les hypocrisies, les envies et toute médisance, comme des enfants nouveau-nés, désirés au lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous grandissiez pour le salut, si vous avez goûté la bonté du Seigneur. Alors, puisqu'il est question de lait, puisqu'il est question de la Pâque, je vous propose d'entendre à nouveau ce texte qui est parmi les plus connus des connus de la Bible, C'est l'épisode où Moïse est au buisson ardent, à cette expérience mystique et ce dialogue fameux avec Dieu. Dieu appela Moïse de l'intérieur du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici !» Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « C'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel lui dit « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs et je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » C'est ce qui se réalise en Christ. Ayant été engendrés, nous dit Pierre. Alors c'est vrai que nous avons été engendrés, nous sommes nés. La preuve, nous sommes vivants. Et en fait, notre patrimoine génétique est un acquis. C'est le fruit d'une compétition exigeante, paraît-il, donc nous sommes déjà des champions. Sur le plan spirituel, deuxième étape de notre engendrement, donc, de notre création d'humain, nous avons aussi hérité du meilleur possible, puisque c'est Dieu qui nous a engendrés par sa parole, nous dit Pierre. Alors qu'est-ce que cela signifie? Bien sûr, il s'agit d'une image, parce que Dieu ne parle pas en agitant l'air, en faisant des ondes sonores. Bien sûr, Pierre tire cette image du grand poème de la création que nous connaissons tous, qui ouvre ce livre de la Genèse, où il y a cette phrase, Dieu dit, faisons l'humain à notre image. Et c'est ce qui arrive aussitôt. Donc le sens de ce verbe dire, dans Dieu dit, ce verbe est à entendre au sens hébraïque, pas au sens grec ou latin du terme. Le verbe hébreu amar, il n'évoque pas simplement une intention, c'est-à-dire des mots qui disent une intention, un projet, mais ça évoque un événement. Ici, c'est l'acte de création. Mais en fait, dans toute la Bible, cette expression « et Dieu dit »,« Vayomer Elohim », elle est typique pour dire que Dieu injecte du neuf dans sa création, qu'il rompt la chaîne simplement de causalité, mais qu'il injecte un supplément de vie dans sa création. Alors les rabbis de l'époque de Jésus ont distingué dans ce grand poème de la création 10 paroles. Ils appellent ça les Asara Ma'amrot. Et ces 10 paroles, elles ne sont pas seulement du passé, nous disent les rabbis, les sages juifs du temps de Jésus. Mais ces 10 paroles créatrices, Dieu ne cesse de les prononcer. Dieu poursuit ainsi, sans cesse, chaque jour, l'œuvre de sa création. Mais c'est ce que dit aussi Jésus dans l'Évangile selon Jean, « Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. » Et donc Jésus, il nous invite à nous ouvrir à ces suppléments de création de Dieu et il nous invite à notre mesure de faire équipe avec Dieu et avec lui, le Christ, pour poursuivre l'œuvre de création dans le monde
et que la volonté de Dieu soit un peu plus faite en ce monde qu'aujourd'hui. Alors ce projet d'équipe entre Dieu et nous, c'est particulièrement le cas en ce qui concerne notre propre création. C'est ce que dit ce pluriel qui est donc dans le verset que je vous ai lu, et Dieu dit « faisons l'humain à notre image ». Et je traduis ce pluriel en disant « Dieu dit, si tu le veux, toi et moi, nous ferons de toi un être qui sera à l'image de la personne singulière que tu es, mais qui me ressemblera aussi par certaines qualités divines. Et ainsi nous serons à la fois fils et filles de l'humain et fils et filles de Dieu avec cette double nature. » Ce projet de Dieu est à la fois génial, mais nous le voyons dans l'actualité assez risqué. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu nous a créés par sa parole et non pas par un geste. Parce qu'un geste, il s'impose par la force. Alors que la parole, elle peut être écoutée ou non, elle peut être débattue, elle peut être négociée, elle peut être différée dans le temps. Notre naissance par la parole vivante de Dieu est ainsi un acte de co-création par la parole vivante de Dieu, donc, dans la mesure et selon la façon dont nous la recevons dans le temps, dans la poursuite de notre vie, de notre naissance, jusqu'à notre passage dans l'autre monde. Et peut-être même encore après, nous verrons bien. Donc c'est tout cela que rappelle Pierre ici, quand il nous dit « ayant été engendré à nouveau, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable par la parole vivante et permanente de Dieu. » Alors cette naissance, elle est donc sans cesse à poursuivre en une étape à chaque fois nouvelle, supplémentaire. Ce n'est pas une seule fois lors de notre conversion ou dimanche dernier à Pâques, bien sûr. Il est question d'avoir chaque étape, jour après jour, une naissance plus élevée, plus riche, plus rayonnante encore autour de nous de bonté. Cette parole, ce n'est pas simplement une sagesse, et elle est d'un tout autre ordre que la parole enseignée, la parole articulée, comme j'essaye de le faire ce matin. Cette parole, elle est une impulsion spirituelle. Pierre l'appelle donc la parole vivante de Dieu. C'est par opposition à des mots écrits avec de l'encre sur du papier, qui sont des mots donc figés. L'Évangile, la bonne nouvelle qui nous est annoncée, c'est que Dieu ne se lasse jamais de nous engendrer par sa parole vivante, écoutée, reçue, intégrée, et qui provoque notre genèse supplémentaire encore aujourd'hui. C'est que Dieu ne se lasse jamais de nous engendrer, donc, d'un germe de vie éternelle. Notre naissance progressive, elle est ainsi une écoute et une ouverture à quelque chose d'inconnu encore qui vient de Dieu et qu'il cherche à nous apporter aujourd'hui. Alors concrètement, cette écoute, c'est un travail de chaque jour. Cette écoute, c'est quelque chose que les Juifs mettent au cœur même de leur théologie et de leur pratique. C'est ce que nous rappelle Jésus aussi quand il parle du sommaire de la loi. Écoute le Seigneur notre Dieu, aime Dieu le Seigneur notre Dieu. C'est un travail de chaque jour par la louange à Dieu, par la confiance en lui, par la prière silencieuse. Nous tenons devant lui tel que nous sommes et pour recevoir les soins, l'impulsion nouvelle qu'il désire nous apporter. Et donc c'est là la première étape essentielle pour l'apôtre Pierre de notre naissance continuée. Et la deuxième étape, nous dit-il, est donc une croissance, comme pour tout nouveau-né, grâce à ce Dieu qui nous allaite finalement. Mais avant cela, avant de parler de ce lait, Pierre glisse une ligne de conseil très pragmatique concernant notre vie de tous les jours. Rejetez donc toute fausseté, toute ruse, hypocrisie, envie et médisance. Alors c'est assez surprenant qu'entre ces deux étapes qui se font suite, deux étapes extrêmement spirituelles de notre naissance par la parole vivante de Dieu et par notre croissance, notre allaitement avec Dieu, Pierre nous appelle à cette éthique supplémentaire de chercher à ce que nous-mêmes, dans notre vie concrète de tous les jours, avec nos frères et sœurs, nous ne tordions pas notre parole. Il aurait été plus attendu que Pierre parle de cela dans une troisième partie, comme étant les fruits de notre bonne naissance et de notre bonne croissance, de notre bon développement. Mais là, en glissant ce conseil pratico-pratique, très moral dans un certain sens, entre notre naissance et notre croissance, Pierre tisse complètement ensemble notre façon de vivre concrètement avec les autres maintenant et notre croissance comme enfant de Dieu. Et je trouve ça cohérent et responsable. Nous ne pouvons dissocier notre vie spirituelle et notre comportement pratique dans la vie de tous les jours. C'est comme une pièce de monnaie. Il n'existe pas de pièce de monnaie qu'à une seule face. Il y en a toujours deux. C'est étrange, hein ? Et si l'on tord une des faces de la pièce de monnaie, ça tord aussi l'autre. Nous sommes à la fois enfants de Dieu et enfants de l'humain. C'est ce que Jésus rappelle dans le même souffle à écouter et à aimer Dieu, mais aussi à aimer notre prochain. Après donc notre processus de naissance, Pierre nous appelle ainsi à un double effort, à la fois dans notre façon de nous comporter concrètement et aussi dans notre croissance comme enfants de Dieu. Et donc à trouver un lait qui nourrisse, qui alimente cette croissance. Alors pour parler de notre naissance, Pierre avait fait donc référence à la notion très biblique de parole créatrice de Dieu. Nous l'avons entendu. Mais pour notre croissance, Pierre fait appel à une notion étrangère à la Bible, étrangère à cette culture juive qui était celle de Jésus, de Marie et de tous les apôtres. Mais il fait appel à un terme propre à la philosophie grecque stoïcienne. Il parle littéralement de lait rationnel et sans fraude. Pierre parle bien de lait rationnel, logikon, terme employé par les stoïciens pour parler de ce geste philosophique de recherche de la sagesse divine. Nos traductions contemporaines, elles n'ont pas du tout aimé ça, ce logikon. Et donc elles ont remplacé ce lait rationnel par le lait de la parole qui sonne effectivement plus biblique. Mais il n'est pas écrit le lait tout logo, c'est-à-dire de la parole, il est écrit le lait logikon, le lait rationnel. D'ailleurs, la traduction latine de Saint Jérôme, la Vulgate, au IVe siècle, elle est respectueuse du grec de l'Évangile. Bon, c'est son métier à Jérôme. Il dit le lait raisonnable et sans tromperie. Donc c'est bien ça qui est marqué dans le texte grec. Notre naissance spirituelle, elle passait donc par un cœur à cœur avec Dieu, sa parole. Mais notre croissance spirituelle, elle passe, selon Pierre, par une recherche intelligente, une recherche rationnelle. Cette recherche étant motivée, oui, par l'expérience première de la bonté de Dieu, c'est ce qu'il dit, si vous avez goûté la bonté du Seigneur. C'est donc toute une démarche qu'il nous propose. Pierre ne nous demande pas d'arriver à la pure connaissance de Dieu, bien entendu, ça nous dépasse, mais d'avoir soif de ce lait qu'est une connaissance raisonnable des réalités physiques et métaphysiques. C'est ce que nous recherchons à la fois par l'émerveillement devant sa création, mais aussi par la mystique, c'est-à-dire par l'expérience concrète de Dieu, le goûter comme il est bon. Cela nous ouvre aussi, comme le dit Pierre, à une recherche de cohérence lucide avec notre façon de nous comporter. C'est la moindre des choses. La référence au lait, par contre, elle est, elle, profondément biblique. Nous l'avons entendu dans l'expérience spirituelle et intellectuelle de Moïse au buisson ardent. La promesse que Dieu lui donne est de cheminer avec les siens jusqu'au pays où coulent le lait et le miel. Donc avec le lait qui permet au nouveau-né de grandir et avec le miel qui symbolise une douceur extraordinaire. C'est donc une promesse que notre recherche de croissance éthique, morale, et notre croissance spirituelle n'est pas quelque chose d'amer et de pénible comme un carême. Mais cette recherche est source de croissance, mais en plus, elle est agréable, elle est douce, comme du miel. Ce cheminement vers le pays où coule le lait et le miel, c'est ce qu'on appelle en fait la Pâque juive. Et c'est aussi le cheminement qui nous est proposé à travers une relecture en Christ de ce cheminement vers la vie véritable, la vie en Christ, où coule effectivement le lait et le miel. Donc entrer dans ce cheminement est pour Moïse comme une naissance à sa vocation. Ça commence par son expérience de Dieu, une expérience mystique. Le buisson ardent évoque un cœur à cœur avec Dieu finalement et l'écoute de Dieu dans notre prière. Mais il connaît ensuite une croissance dans une recherche théologique et philosophique. À travers cette célèbre réflexion sur l'être même de Dieu, sur son nom, c'est-à-dire sur ce qu'on peut dire de lui. Et c'est là que Dieu se présente comme un « je suis ». C'est de la pure philosophie, en fait, hein, que va creuser ensuite Moïse dans une relecture de la Bible. Ce Dieu « je suis », c'est aussi celui qui l'envoie et c'est à la fois le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pierre est fidèle à cette racine biblique de Moïse et de la promesse du lait, et il nous appelle à désirer ce lait, à nous mettre donc en route comme une Pâque, comme une traversée de Pâques, puisque c'est ce que signifie le mot Pâque, une traversée vers le lieu de notre croissance, vers le pays où coulent le lait et le miel, de la théologie à la fois mystique, une expérience de Dieu, et aussi une théologie réfléchie par l'intelligence, donc une théologie à la fois intelligente et expérimentale, puis-je dire. Mais Pierre parle aux personnes de son temps, baignant dans une culture grecque stoïcienne à l'époque. Et cette démarche de Pierre d'utiliser ce vocabulaire stoïcien, non biblique, je trouve qu'elle est inspirante et stimulante pour notre époque qui est profondément néo-païenne, finalement. Il nous appelle à parler à nos contemporains avec des paroles qui pourraient faire sens à eux, qui ne connaissent rien, ne rien de la Bible, de notre patois d'Église. Il faut donc trouver des paroles crédibles, raisonnables, afin d'évoquer ce que nous avons goûté concrètement de l'incroyable bonté de Dieu. Comment ce que Dieu nous apporte dans notre vie est à la fois source de naissance, de croissance et d'une incroyable douceur. Amen. Et pour faire appel donc à l'Esprit Saint qui nous enfante et qui nous enseigne, je vous propose de prendre ce joyeux cantique de Pentecôte. Viens cet Esprit, Dieu créateur. Alors c'est le Veni Creator de Martin Luther. Hein. Les quatre strophes de ce cantique, donc c'est 35-01, page 474.
Et nous prions. Seigneur notre Dieu, toi qui nous appelles à désirer le lait pur et sans tromperie, nous te présentons notre monde, notre Église, et toutes celles et ceux qui cherchent à se nourrir de toi. Que ta lumière guide celles et ceux qui cherchent un sens à leur vie, en leur donnant une nourriture intérieure qui apaise et relève. Qu'ils trouvent des vraies paroles, des gestes sincères. Fais de nous un peuple qui accueille et qui construit, et que nos communautés chrétiennes soient des lieux de vérité, d'accueil et de croissance. Viens consoler les personnes blessées, découragées ou trompées. Offre-leur un lait qui guérit, une nourriture qui restaure la confiance et la dignité, que ton esprit les enveloppe et les relève. Seigneur, inspire les autorités de ce monde, donne-leur la sagesse de servir dans la justice et la vérité, qu'elles recherchent le bien commun et qu'aucune décision ne soit guidée par la tromperie ou la peur. Pour chacun de nous, ravive le désir d'une foi simple, vraie, vivante. Apprends-nous à revenir à l'essentiel et à devenir une présence bienfaisante pour les autres. Seigneur, purifie nos cœurs et fais grandir en nous ce qui vient de toi et que ton amour soit notre nourriture quotidienne, en disant ensemble la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Grand, grand merci, Marie-France, c'est vraiment magnifiquement juste et inspirant. Alors, je vous propose de prendre le chant 41-17, page 584, « Les cieux et la terre ». Et pendant ce chant de louange, eh bien, nous pourrons participer à cet effort de l'Église pour témoigner dans le monde de l'Évangile du Christ par l'offrande. 41-17. Voici le premier commandement, nous dit Jésus. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour avoir la force de commencer finalement à aimer un peu de cette sorte, nous recevons la bénédiction de Dieu qui est donnée à l'affirmatif, au singulier, comme ces paroles données par Moïse pour que nous bénissions notre prochain. L'Éternel te bénit et t'accompagne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Ô Éternel, tu sauves l'humain et tout ce qui vit, qu'il est précieux ton amour, ô Dieu, mon Dieu. Amen.